Connard Podcast sur la route, édition 2022, avec votre animateur Alain Jou. Partons à la découverte des régions du Québec, propulsées par les croisières MVP. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette tournée estivale, nous nous retrouvons actuellement dans la magnifique région de la Montérégie et plus précisément à Longueuil, messieurs, dames. Alors, nous nous payons la traite lors de cette tournée estivale et nous rencontrons, mais alors là, la première magistrate, oui, de ville de Longueuil. Elle se passe de présentation. Elle est connue de tous à travers le Québec et je peux même dire de plus en plus au sein de la francophonie. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous recevons la présidente du comité exécutif de Ville de Longueuil, responsable des dossiers portant sur la démocratie, mais également la jeunesse. Oui, elle a pris ce dossier en main. C'est avec une immense joie, messieurs, dames, que nous recevons à Coconut Podcast, je peux dire, une étoile montante de la politique au Québec. Montante, je ne sais pas, ça fait quand même quelques temps, mais elle est la première, oui, je pourrais vous dire, femme d'un aussi jeune âge, et même, il n'y a jamais eu de garçon, même, qui a siégé comme maire à l'hôtel de ville de Longueuil à un si jeune âge, et même, je vous dirais, au Québec, c'est une première, messieurs, dames. Accueillons à Coconut Podcast. Franchement, je suis super content d'être ici aujourd'hui. Je dis bien la grande mairesse de ville de Longueuil, Madame Catherine Fournier, messieurs, dames.
Salut, Alain.
Catherine.
Hey, quelle présentation, petite dithyrambique, je suis très, très touchée.
Ben, écoute, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit à Coconut Podcast, mais la première fois qu'on a la chance de vous voir, on a pu vous serrer la pince.
C'est vrai, ça fait toute la différence.
Ça fait toute la différence. Ouais. Catherine Fournier, Madame la mairesse, comment ça va?
Ça va super bien, vraiment. Je suis tellement heureuse d'avoir l'occasion, justement, de pouvoir échanger avec toi, avec les gens qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, d'avoir cette occasion-là. Je sais que ça fait un petit moment qu'on voulait se trouver, justement,
l'espace
pour pouvoir le faire. Exactement. Donc, très heureuse de te recevoir, toi, ainsi que l'ensemble de l'équipe, mais aussi, comme je disais, les spectateurs un peu dans l'envers du décor de l'Hôtel de Ville de Longueuil.
Super. Et on se doit de te dire un grand merci. Lorsque nous t'avions rencontré lors de nos tout débuts, au début de la pandémie, 5 semaines après le début de la pandémie, ben on te dit merci car aujourd'hui, Coconut Podcast, on est les lauréats 2022 du prix pour un Québec sans racisme décerné par l'Assemblée nationale, le ministre Benoît Charrette, ministre responsable de la lutte contre le racisme. Donc, on te dit merci d'avoir participé à l'émission et tu as contribué à ce que Coconut devienne qui nous sommes aujourd'hui. Et là, tu nous reçois.
Mais c'est gentil, mais permets-moi quand même de féliciter l'ensemble de votre équipe pour le travail accompli. Ce prix-là merci. N'est pas tombé de nulle part. Au contraire, vous avez bûché très fort ces dernières années pour faire votre place également dans l'univers du podcast au Québec, mais également pour tous les enjeux relatifs à la diversité. Chapeau!
Ben, merci à toi, Catherine, parce que ton équipe nous a dit qu'on pouvait te tutoyer toi-même, tu nous le permets.
Oui, je préfère même ça, effectivement.
Excellent. Écoute, tu as vécu les 2 années de pandémie, on est comme sur notre 7e vague actuellement. Tu étais députée indépendante dans Marie-Victorin. Et aujourd'hui, écoute, tu es responsable de la 5e plus grande ville en importance là, au Québec. Comment ça s'est orchestré pour toi, le fait de devenir mairesse en pleine pandémie, en sortie de crise, parce que c'était plus ou moins évident en tant que député, mais là, on est responsable de menus détails. On aimerait savoir comment que ça ça s'est opéré pour toi sur le plan personnel et professionnel
c'est
très
vrai
rapidement?
C'est vrai que ça donne un peu le vertige, on dit comme ça. Mais non, ça s'est bien passé, honnêtement, quand okay, même, la transition, parce que justement, j'avais l'expérience de 5 ans en tant que députée de Marie-Victorin, qui est quand même un secteur de la ville de Longueuil. Une des 4 circonscriptions là, qui est vraiment dans la ville. Donc, je connaissais déjà très bien les dossiers, la façon dont la ville fonctionnait, tout ça. Mais la politique municipale, c'est quand même très différent de la politique québécoise. Puis aussi, la grande différence, c'est que moi, j'étais une députée dans l'opposition. Tandis que là, bien, là-dessus, étant mairesse, oui, je suis aussi mairesse au pouvoir, okay, nécessairement. Donc, c'est super stimulant parce que tu sens que les décisions que tu prends sont justement celles qui sont appliquées. Tu peux voir la différence que tu fais, mais en même temps, ça vient avec plus de responsabilités. Et donc, effectivement, dans le contexte où il y a eu la COVID, moi, très rapidement, on a été élus au début du mois de novembre avec mon équipe. Et un mois plus tard, on était dans un nouveau confinement. Là. On a dû quitter ici les bureaux de l'Hôtel de Ville pour aller en télétravail jusqu'au mois de mars. Donc, ça a été un début de mandat en télétravail, essayer de créer une chimie avec l'équipe, les élus, également les nouveaux membres de mon cabinet, que les gens apprennent à se connaître, qu'on soit plus efficace, qu'on lance des nouveaux processus, mais là, tout était en virtuel, loin d'être évident. Même chose avec les équipes des fonctionnaires. C'était vraiment difficile d'apprendre à comment on travaillait ensemble. En tout cas, les processus, je pense qu'ils ont été plus longs. Je pense que tout est plus long, peut-être un peu plus en télétravail versus, tu sais, quand tu es en personne, il n'y a rien qui peut remplacer une petite conversation informelle ou aller confirmer un petit quelque chose comme ça bien rapidement dans un détour de corridor. Exact. Donc, nous, on est revenus au bureau ici en présence au mois de mars, dès que ça a été possible de le faire. Mais pour ce qui est des équipes administratives, les fonctionnaires, tout ça, c'est même pas encore tout le monde qui est revenu. Maintenant, il y a l'organisation flexible du travail. Il y a beaucoup de gens qui demeurent à temps complet là, en télétravail. Donc, c'est des défis différents pour les organisations. Ouais.
Différents. Mais on sait que ton expérience en politique provinciale t'a grandement servi, car tu, on le redit encore, tu prônais beaucoup la collégialité, le travail où on travaille ensemble avec les différentes parties pour arriver au but souhaité. Je pense que tu t'es sûrement inspiré de cette façon de faire parce que ton équipe de Coalition Longueuil, n'est-ce pas? Il y a 2 d'entre ces personnes qui avaient déjà siégé, mais par la suite, toute l'équipe est fraîchement nouvelle, donc avec beaucoup d'avenants, là, ils veulent vraiment apporter
très dynamique,
exactement, du leur dans la ville de Longueuil. La contribution de M. Sylvain, de M. Jonathan, hein? Tabara, c'est bien
oui,
ça?
Exact,
oui, exactement. Oui. J'aimerais que tu nous dises comment ces 2 piliers de la politique municipale t'ont aidé afin de pouvoir aider tous les nouveaux conseillers de ton équipe. Là, on aimerait t'entendre
t'as raison,
là-dessus.
T'as raison, hein? Alain, parce que non seulement moi, je suis nouvelle en politique municipale, même si j'ai beaucoup d'expérience politique. Derrière la cravate déjà, mais tous mes autres collègues, ou presque, comme tu le dis, étaient nouveaux, même première expérience politique, premier mandat. Donc, c'est beaucoup de travail. Puis ça, moi, je me mets quand même une certaine pression. Tu sais, je veux que les gens soient bien, je veux qu'ils puissent s'accomplir dans le cadre de leur mandat, qu'ils puissent vraiment être à l'aise dans leurs fonctions. Et une chance qu'on a eu Jonathan Tabara et Sylvain Joly, encore, nous les avons et ils sont toujours des ressources très, très précieuses parce que, justement, ils amènent avec leur expérience certains sons de cloche différents, ils sont plus au courant de comment la machine administrative fonctionne, ils ont des expériences avec lesquelles on peut comparer. Hein. Des fois, nous, on se met beaucoup de pression parce que, comme tu dis, on est très dynamique. Hein. On veut que les choses aillent vite. On veut accomplir nos projets. On veut que les choses soient, que nos engagements soient remplis le plus rapidement possible. Je pense que c'est tout à fait louable et correct. Mais il y a quand même une réalité de comment fonctionnent les processus, de comment, quelles étapes on doit passer pour accomplir nos ambitions, disons ça comme ça. Donc, d'avoir Jonathan et Sylvain dans l'équipe, mais ça nous permet d'être peut-être plus réaliste par rapport à nos attentes ou de pouvoir comparer en se disant, ben Jonathan peut arriver en disant, hey, les amis, réaliser que ça va pas mal plus vite.
Vice-président du comité exécutif, lui responsable des dossiers de finances.
Exact,
là, un
finance,
peu.
Infrastructure,
tout un
grand projet.
Était, dans le domaine des banques, là, à l'époque. Là.
Il se décrirait comme un banquier,
un
je
banquier.
Pense.
C'est bon. Puis Monsieur Trudel, Joly, lui, il est au transport. Là.
Oui, mais en fait, il est directeur juridique des affaires à la STM. Okay. Où, mais bon, il va prendre sa retraite de la STM, un peu, pour se concentrer à 100% sur la ville de Longueuil. Mais donc ça, c'est intéressant. Puis M. Joly avait été à l'époque sur le comité exécutif aussi avec Caroline Saint-Hilaire. Donc, il peut également comparer comment la ville a évolué avec le temps, comment la culture organisationnelle a changé. Puis des fois, ben, c'est simplement aussi d'apporter des ajustements. Ça nous permet ça, de se comparer positivement, de se fixer des objectifs d'amélioration continue.
Superbe. Puis là, il y a quelque chose qui a vraiment accroché Coconut Podcast. C'est ton équipe, la diversité de l'équipe de mairesse Fournier, si tu me permets, Catherine.
Ben oui.
À la sécurité publique, on retrouve Madame Loalika.
Affine Loalika. Oui,
Madame Loalika. On retrouve différentes personnes des communautés culturelles. Nous autres, à Montréal, on regarde Laval, M. Boyer, on regarde Madame Plante. Vous n'êtes pas en reste à Longueuil, aucunement. Est-ce que c'était un objectif premier de Catherine de s'assurer d'avoir une représentation au sein du conseil de ville qui était proportionnelle à la population de Longueuil? On t'écoute.
Mais moi, en fait, mon premier objectif en politique, c'est de travailler à rebâtir la confiance entre la classe politique et la population. Puis, à mon sens, la question de la représentativité, c'est assez fondamental dans le lien de confiance, parce que si on veut pouvoir se représenter, si on veut sentir qu'on a une voix en politique, bien, il faut qu'il y ait des gens qui nous ressemblent, qui soient justement au pouvoir, qu'on sente que notre voix peut être portée par ces personnes-là. Donc, d'où l'importance de la représentativité, à mon sens. Donc, absolument. Je m'en suis jamais cachée. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Puis, je veux dire, honnêtement, les discours comme quoi c'est difficile d'atteindre une représentativité, moi, je n'y crois pas. Du moins, je suis très sceptique.
T'as une capacité de convaincre, parce que ça a l'air qu'il y a même des humoristes là, qui sont tombés sous le charme de Mme Fournier, hein, de Catherine.
Oui.
Un café avec
Sylvain Larocque, qui est aujourd'hui les conseils
municipaux. Oui, exactement. Ouais.
Mais écoute, j'essaie d'être persuasive.
C'est bon, ça.
Mais sans blague, finalement, je veux dire, moi, je pense que c'est. Je ne dis pas qu'il y a certains défis, bien entendu, mais c'est beaucoup une question de volonté politique. Moi, je l'ai vu. Parce que dès que pour moi, ça a été très clair, puis je veux dire, tu sais, c'est aussi une question de faire de la place, c'est pas juste parce qu'il faut faire attention. Des fois, avec la représentativité, des fois, c'est juste agiter un peu comme une espèce de. On appellerait l'expression le token. Oui, exact, exactement. Ouais, moi, c'était clair que c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais que les gens soient partie prenante. Je voulais. Donc, moi, je suis allée pour les compétences, mais c'est pas parce que tu vas prioriser les compétences que tu peux pas avoir des gens représentatifs. Puis souvent, on entend ces discours-là comme quoi ça serait contradictoire, mais bien au contraire. Bien au contraire, selon moi. Fait que ça s'est fait naturellement, puis au final, j'étais tellement fière parce que on le sent là, dans la population, comme les gens sont content d'être représenté. Le lendemain de l'élection, il y avait des journalistes qui faisaient un petit vox pop ici à Longueuil, puis les gens klaxonnaient, puis c'était comme enfin des gens qui nous ressemblent,
60%
qui sont au pouvoir.
Du suffrage exprimé a été pour Catherine Fournier, je veux dire, presque plébiscité, là, en quelque sorte.
Ouais, c'est un référendum gagné.
Ta rigueur, cette droiture qui est la tienne depuis qu'on te connaît, tu as des idées, tu es convaincu par celle-ci, mais surtout, tu fais tout pour les mener à terme. Les gens de Longueuil t'ont choisi, mais M. Larocque, c'est bien ça?
Oui, Sylvain.
Il est embarqué dans ton équipe, entre autres, et tant d'autres, car il y avait un projet pour Ville de Longueuil. Toi, tu vois Longueuil différemment. Il y a des projets qui étaient déjà en branle. Longueuil 2035, un centre-ville. Madame la mairesse a quand même dit, bon, le projet est intéressant, mais moi, je vais quand même y mettre du mien.
C'est ça.
Coalition Longueuil, on a une façon de penser les choses qui sont différentes. On aimerait t'entendre. Les gens de Longueuil t'ont choisi afin de changer les choses et de faire différemment. Tu représentes ce renouveau en politique comme tant d'autres maires. Quels sont les grands dossiers sur lesquels l'administration Fournier, n'est-ce pas, compte se pencher pour les 4 années à venir, là? On t'écoute,
Mais justement, Catherine. Je pense que les gens nous ont fait confiance parce qu'ils avaient envie d'un changement positif au sein de la ville, qu'on parle de Longueuil pour les bonnes raisons, pour notre solidarité, pour notre capacité à innover. Puis c'est vraiment ce sur quoi on souhaite mettre de l'avant dans les prochaines années. Puis en fait, le changement, je pense que les gens le sentent déjà, puis il est bien entamé. Mais qu'on parle des enjeux de participation citoyenne, hein, je le disais, la confiance, la transparence, pour moi, c'est fondamental. On est en train de mettre en place des mesures ici pour être beaucoup plus accessible à l'hôtel de ville, impliquer davantage les citoyennes et les citoyens dans la prise de décision, l'OPPL, l'Office de participation publique de Longueuil, qui mène d'ailleurs déjà son premier mandat sur les questions liées au développement de l'aéroport de Saint-Hubert, juste ici à côté de l'hôtel de ville. Donc ça, c'est quand même majeur.
Les citoyens t'ont grandement félicité, du moins votre administration, de leur permettre de pouvoir s'exprimer sur la chose. Ils disent même que ça devrait être une façon qui devrait être répétée. Oui. Est-ce que tu l'entends?
Bien, c'est la moindre, effectivement, pour moi, c'est la moindre des choses. Il y a des enjeux comme ça qui sont sensibles, qui sont délicats, où il faut impliquer la population. Et non seulement la population, mais les experts aussi. Je veux dire, il y a des académiques, il y a des spécialistes sur notre territoire qui demandent juste à être mis à contribution. On a d'ailleurs créé des comités citoyens consultatifs, que ce soit en environnement. Donc, des gens, des Longueuilloises, des Longueuillois qui ont une expertise en environnement puis qui, bénévolement, vont conseiller la ville. Et pour nous, c'est tellement riche de pouvoir... Non seulement ça permet de mettre en action un savoir citoyen, mais ça permet aussi pour la ville d'avoir... Je veux dire, un bassin de conseils, d'idées tellement intéressantes. Puis on a d'autres idées dans ce sens-là qui s'en viennent puis qui vont être concrétisées à court terme. Mais sinon, deux autres grands enjeux pour moi, c'est certain, lutte au changement climatique. On ne peut pas passer à côté. Hein, c'est la question de l'avenir et également la question de l'habitation qui sont vraiment les deux plus grandes préoccupations des gens à Longueuil.
Lutte au changement climatique, qui va nous amener au logement un peu plus loin. Une des propositions que... vous-même, maire de grandes agglomérations, vous faites, on a vu de grandes sorties récemment, vous parlez de densification urbaine davantage comparativement à l'étalement urbain.
Oui.
Pour les néophytes, est-ce que tu aimerais un peu nous dire quelle est ta pensée et celle de ton équipe à ce sujet?
100%, parce que d'ailleurs, je trouve que la densification, c'est un bel exemple de où vont se rejoindre les enjeux de l'habitation et de l'environnement. Parce qu'en ce moment, on a deux choix. On manque d'unités de logement, là, que ce soit de tous les types, que ce soit du locatif ou...
Même pour pouvoir acheter. Là,
exact, même pour pouvoir acheter, effectivement. Donc, soit on prend les boisés qui existent puis on décide de raser nos forêts puis de construire des nouvelles habitations, soit qu'on regarde du côté de ce qui est déjà bâti, les quartiers existants, et qu'on trouve comment mettre plus de gens sur une superficie donnée. Et là, on ne parle pas juste de construire des tours de luxe. Condos. Souvent, c'est ce qu'on a en tête, là, les fameuses tours à condos un peu inaccessibles. Non, on parle aussi de pouvoir ajouter des logements, même dans des maisons qui existent déjà, donc subdiviser. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de réglementations municipales qui ne permettent pas la subdivision de logements. Par exemple, pour faire du bigénérationnel, ou bien construire une unité accessoire dans une cour. Nous aussi, à Longueuil, il y a plusieurs secteurs anciens qui sont des grands terrains. Évidemment, ça ne se peut pas n'importe où, mais il y a des endroits où on peut le faire.
Permettez même actuellement que les roulottes... Si on dit, bien, la mairesse Fournier, là, il y a quelque chose de nouveau, parce qu'il y a des campeurs. Vous permettez, là, ou du moins vous le tolérez là, sur le territoire de Longueuil. Est-ce que c'est dans cette optique également de permettre à tous et chacun de pouvoir se loger des fois temporairement ou de manière plus continue?
Oui, ça, c'était beaucoup dans le contexte justement de cet été, et le tourisme, les feux d'artifice et tout ça dans le coin de la marina puis sur le bord du fleuve. Mais ça, on a toute une vision aussi parce
pour
que...
Longue-Rive.
Vous en parlez tout à l'heure, Alain. Moi aussi, je vais faire l'effort de te tutoyer. Donc, c'est certain qu'il y avait une vision de développer beaucoup d'habitations dans ce secteur-là. Puis évidemment, je pense que c'est intéressant parce qu'on manque de logements sur notre territoire. Ceci dit, on veut que le fleuve soit accessible à la population. C'est une priorité. Puis on peut penser également à toute une offre de diversification économique, de divertissement aussi qui pourrait être disponible dans le secteur du fleuve qui a bien besoin d'une revitalisation. On pense également à la création d'un éco-parc, donc de faire vraiment, de mieux protéger les berges de Saint-Laurent puis de mieux les valoriser aussi pour que les citoyennes sentent un plus grand sentiment d'appartenance. Donc ça aussi, c'est sûr que c'est dans nos grandes priorités.
C'est important pour Mairesse Fournier. Elle s'inspire de ce qui a été fait ailleurs au Québec, le 2020 de Mairesse Plante, Madame Valérie, qu'on a interviewé également à Coconut. Parce que, bon, le logement commence à être cher, là. Il y a eu une augmentation les 5 dernières années de 78% de la valeur, là. C'est que aujourd'hui, pour acheter une maison à Longueuil, c'est à peu près 5 000 $. Donc, c'est énorme. Vous, en voulant ramener du logement abordable dans ces grands projets de construction immobilier, est-ce que vous sentez que le conseil de ville, les citoyens, veulent vous suivre là-dedans?
Ah, tout à fait. Comme je le disais, la question de l'habitation, c'est une des plus grandes préoccupations des citoyennes et des citoyens. Puis, ça passe par plusieurs mesures, hein, parce que c'est pas tout le monde qui nécessairement est admissible à du logement social, mais il y a bien des gens qui sont admissibles qui ne peuvent pas avoir une unité parce qu'il n'en a pas assez. Puis je veux dire, en augmentant l'offre de logement social, bien, ça fait en sorte que les logements locatifs qui ne sont pas logements sociaux, mais qui sont quand même peut-être plus abordables, bien, vont être libérés par des gens qui vont être dans le social. C'est tout un effet domino. Hein? Donc, il y a plus de gens en ce moment également qui sont locataires en raison de la surchauffe immobilière. Si les prix se calmaient ou si on donnait une diversification de l'offre, même dans le marché privé de la propriété, hein, parce que toutes sortes de nouveaux modèles qui sont en train d'être développés, notamment la capitalisation partagée, en tout cas le partage des mises de fonds.
Les coop,
exactement. Donc, si ça, on offre davantage de modèles et qu'il y a plus de gens qui accèdent à la propriété, bien, ces gens-là libèrent du locatif aussi, puis donc diminuent la pression à la hausse sur la demande dans ce secteur de marché-là.
Parce
donc,
la pression est forte
tout est lié. Hein? Oui. Tout est lié. Donc, si on construit plus de logements sociaux, ça va aussi aider la classe moyenne par la force des choses, par un déplacement de la demande.
Le taux d'inoccupation dans Longueuil, 1,8%, ça veut dire qu'il n'y a plus de logements libres.
Effectivement,
là.
Non.
Intéressant. Et là, vous avez certaines parcelles de terre fortes, intéressantes. Il y a eu des administrations précédentes, Mme Saint-Hilaire, entre autres, qui pensaient à développer la zone, c'est une autre époque, pré-COVID, là, je vous dirais, des taux de luxe. Mais vous, avec votre jugeote, votre sagesse, on peut le dire ainsi, Catherine. Vous dites qu'il ne faut pas faire l'erreur de certains quartiers qu'on peut voir dans d'autres centres urbains. Griffintown, il faut penser à des écoles, il faut penser à des parcs, à échelle humaine, des services de proximité. Les gens qui commencent à lorgner la Longue-Rive, est-ce que de jeunes familles vont pouvoir s'y installer? Va-t-il y avoir des écoles? Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez déjà à faire des représentations auprès des autorités provinciales en ce sens? On vous écoute?
Oui, mais là, ce qu'on est en train de faire, puisqu'on est quand même encore à nos premiers mois de mandat, sûr, c'est la révision des projets en cours.
Super.
De voir quels sont les projets de développement, à quel stade en est-on, puisque ce n'est pas tous les projets qui sont au même stade, donc voir quelles sont les priorités aussi. Il y avait parfois des projets à la pièce qui devaient débloquer, que les promoteurs étaient en attente, tout ça. Donc, on a priorisé, disons, certains éléments, mais là, on veut vraiment revoir chacun des projets pour être certain d'avoir une vision d'ensemble. De ne pas aller vers les projets à la pièce, mais vraiment plus de savoir qu'est-ce qu'on veut pour tel secteur, la mixité, non seulement des usages, donc du commercial, pour les commerces de proximité, être sûr qu'on puisse avoir une bonne desserte en transport en commun, d'avoir les infrastructures nécessaires. Oui, les écoles, mais des fois, on ne pense pas aussi à tout ce qui est comme souterrain, l'eau. Hein? L'eau, c'est assez crucial et les infrastructures dans les villes plus vieilles comme Longueuil sont désuètes, on ne se le cachera pas. On ne peut pas supporter soutenir plutôt une pression qui est encore à la hausse pendant plusieurs années sans venir, par exemple, ajouter des ressources ou agrandir les usines de traitement de l'eau potable, mais également de traitement des eaux usées. Donc, on parle de canalisation.
Parce qu'on parle des rejets dans le fleuve.
Parce qu'on peut bien faire des nouvelles tours, mais si les gens, quand on ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau, on ne sera pas très avancé.
Certaines municipalités, c'est à Couronne Nord.
Oui, c'est ça. On ne les nommera pas, mais on ne voudrait pas voir Longueuil alimenté en eau en camion-citerne. Je pense que c'est notre responsabilité d'être sûr que le développement suit également la possibilité de nos infrastructures, là, la capacité plutôt de nos infrastructures. Donc, c'est tout ça qui doit être évalué dans les projets, autant de densification que de développement. Puis c'est ce qu'on est en train de faire. On a fait également une recension, puis on est en train de le compléter de tous les terrains qui appartiennent à la ville pour être en mesure après d'être plus proactif dans les partenariats qu'on va faire avec les groupes, les développeurs communautaires pour le logement social notamment. Déjà passer des étapes pour accélérer les projets, puis aussi avoir une vision stratégique du territoire, parce que comme je l'ai dit par le passé, puis je blâme pas personne, mm-hmm. mais c'était beaucoup du cas par cas. Mais là, le territoire qui reste, je pense qu'il faut être ultra stratégique parce que...
Vous allez faire un peu... Vous voulez faire appel à la population pour un genre de plan d'aménagement ou quelque chose?
Mais c'est sûr qu'on veut impliquer la population dans les prises de décision, tout ça, mais c'est clair que, aussi, qu'est-ce qui nous reste en termes de milieux boisés et humides, qui sont à valeur écologique intéressante, on veut les protéger à perpétuité. Donc, ça aussi, il faut qu'on en...
À perpétuité?
Oui, oui, avec des outils juridiques qui vont nous permettre de le faire pour que ça soit protégé des décisions politiques aussi des prochains conseils. Je veux dire, on sera pas toujours là, mais je pense que c'est important de maintenir ces décisions-là fixes dans l'avenir. Et donc, on est en train de faire ça pour donner aussi la prévisibilité aux promoteurs, de dire, OK, si on le protège, mais tel secteur, on va le développer. Venez et on va discuter ensemble de comment on peut développer ces secteurs-là, que ce soit bénéfique pour vous et bénéfique pour la population.
Wow! Vous prenez votre temps, mais ce qui est incroyable, vous n'avez pas peur de prendre des décisions. On va commencer par une décision qui en a surpris, mais vous avez pris le temps de vulgariser la chose. C'est ce qu'on apprend avec l'administration Fournier. Vous prenez le temps d'expliquer. Puis je vous dis, ça a retenti même à l'extérieur de Longueuil. Mm-hmm. C'est-à-dire, le message passe bien. On commence avec la fermeture de certaines piscines municipales. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, pelaye! » Mais là, comment que c'est expliqué? Le citoyen n'a pas d'autre choix que d'applaudir parce que bon, on remplissait les piscines, mais il y avait des pertes assez importantes. Exact. Puis à un moment, il y a eu une décision de votre part, votre équipe, disant ben là, on se doit de regarder la situation pour pouvoir rénover ce qu'on doit rénover, refaire ce qu'on doit refaire. Ça n'a pas de sens que de remplir des piscines. Puis, oui,
pour qu'elles se vident, mais c'est du déficit de maintien d'infrastructure, hein, comme dans bien des choses, c'est des investissements qui n'étaient pas nécessairement sexy à réaliser, donc on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller. Puis là, on arrive à un point où nos piscines, justement, sont très dysfonctionnelles, ont besoin d'investissements majeurs. Autrement, il y a des pertes et du gaspillage en eau potable.
Oui, c'est ça.
Exactement. Puis il faut quand même dire que Longueuil, on pouvait se permettre de peut-être fermer quelques piscines, étant donné que la ville de Longueuil, c'est la ville où il y a le plus de piscines au Québec par
c'est
habitant.
Ça, c'est pas toutes, c'est quelques-unes.
C'est quelques-unes, c'est pas toutes les piscines. On est conscient, par contre, à cause des agréments. C'est sûr que si on habite au coin d'une rue puis qu'on est habitué d'aller à la piscine publique à côté,
il faut
qu'on aille à genre 2 km, c'est sûr que c'est un peu fâchant puis que tu dis, ah, coudonc, c'était le fun quand c'était l'autre bord de la rue. J'en suis bien consciente. Puis on lisait les infrastructures, ça serait le fun qu'elles soient accessibles. Mais c'est quand même la réalité à laquelle on fait face. Puis je pense qu'effectivement, les citoyens comprennent
ces enjeux-là. C'est la manière que ça a été expliqué. On vous dit chapeau, nous qui sommes dans les communications. Ouais. Là, c'était pas mal, ça.
On va envoyer le message à toute l'équipe des communications de la ville, là, parce qu'évidemment, c'est un travail d'équipe.
Ouais. Excellent. Également, il y avait un dossier, là, c'était une patate chaude là, à la ville de Longueuil. Nos cervidés. Hein?
Je vous voyais venir.
C'est vrai, vous me voyez venir.
Je te voyais venir, Alain.
Oui.
À quatre pattes.
Puis là, encore dans la manière d'apporter la chose et de communiquer la chose, on voulait euthanasier ce cheptel, normalement qui devrait être à 10-15 têtes au parc Michel-Chartrand, c'est bien ça?
Oui.
Puis là, il était à 38, c'est encore tolérable. Là, ça a augmenté de 200 et quelques pourcents. Là. Il y en a quoi, 105, une centaine?
Ça, c'était l'année dernière, avant qu'il y ait leur bébé. Donc,
oui, c'est ça.
Je t'assure qu'aujourd'hui, ils sont sans doute proches 140, 150.
Puis là, votre équipe, il fallait quand même résorber la situation. Vous aviez déjà dit qu'il fallait trouver une situation à ce problème. Et là, les responsables de la faune, de l'association de pêcheurs, de pêche et chasse, ont même corroboré cette décision. L'arbalète. On va inviter certains chasseurs expérimentés à pouvoir à l'arbalète, c'est un peu moins cruel, je pense bien, c'est plus accepté, hein? L'acceptabilité sociale y est. Bon, il n'y a pas encore de levée de bouclier énorme, mais est-ce que vous avez dû réfléchir longuement afin de trouver la solution qui plairait à l'ensemble de la communauté longueuilloise?
On vous mais c'est pas évident, évidemment, mm-hmm. c'est pas quelque chose qu'on fait là, de gaieté de cœur. Mm-hmm. C'est vraiment pour préserver l'équilibre écologique du parc Michel Chartrand, parce qu'il y a d'autres espèces animales qui vivent dans le parc, qui subissent les conséquences de la mm-hmm. surpopulation de cervidés. Toutes les espèces, évidemment, là, toute la flore, donc qui en souffrent également énormément. Donc, on a dû vraiment prendre des mesures pour faire appliquer, en fait, ce qui a été ressorti des recommandations de la table de concertation qui regroupait des citoyens, des experts, des scientifiques autour de la question. C'est eux qui nous ont dit que la seule solution viable était la réduction du cheptel de cerf. Mm-hmm. Et étant donné leur nombre actuel, c'est ce qui nous a fait retenir, en fait, l'option de la chasse contrôlée, qui est déjà une méthode éprouvée là, par le ministère de la faune des parcs, qui l'utilise, en fait, là, dans plusieurs secteurs à travers le Québec. D'accord. Puis je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est vraiment connu, la chasse, chasse à l'arbalète. Donc, on va évidemment prendre toutes les mesures de sécurité pour fermer le parc lorsqu'il y aura les opérations de chasse. Et ce sera bien communiqué aux citoyens avec une opération là, complète d'informations, puis on veut impliquer la population également. On va demander la collaboration en fait, des citoyennes et des citoyens du secteur, puis des utilisateurs et utilisatrices du parc. Mais on espère pouvoir aller de l'avant le cet automne pour mettre ça derrière nous.
Superbe. Pour presque terminer l'entrevue, Catherine, actuellement au Québec, on sent qu'il y a une recrudescence des crimes commis par armes à feu. C'est presque une crise, là, en tout cas à mots couverts. Notre ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, c'est bien ça? Oui. Elle fait des sorties, notre premier ministre, les maires des grandes villes. Vous avez un chef de police à Longueuil. Je peux vous dire qu'il a le respect de l'entièreté de la diversité au niveau de la province. Même les autres corps policiers regardent un peu ses manières de faire. Monsieur Fadi Daguerre, oui. C'est bien ça?
Oui.
On n'entendait pas trop Longueuil être aux prises avec le problème d'armes à feu, nécessairement. Il y a eu quand même une arrestation, là. Il y a eu quelques jours, là, des petits jeunes là, qui ont été arrêtés par le service de police avec des armes. Que comptez-vous faire au niveau de Ville de Longueuil avec votre chef de police qui a quand même été reconduit pour les 8 prochaines années, là, en 2021?
On en est très heureux.
Oui, de par son travail. Que comptez-vous faire afin de vous assurer que Ville de Longueuil reste une ville sécuritaire pour l'ensemble des citoyennes et citoyens? Catherine.
C'est sûr qu'on a quand même une certaine préoccupation là, avec ce qu'on voit juste à côté de chez nous, à Montréal, à Laval. Jusqu'à maintenant, Longueuil était assez épargné. On touche du bois. Évidemment, il n'y a pas de frontière à tout ça. Là.
Tout à fait.
Pour l'instant, je pense que quand même, on a une approche de prévention qui fait ses preuves. Encore là, il y a plusieurs facteurs là, qui sont à l'œuvre. C'est sûr que puis Fadi serait le premier à dire qu'il n'y a pas juste ça, mais peut-être que ça peut contribuer.
Des équipes mixtes, là, vous avez là, sur le terrain.
Tout à fait.
Là,
on a même des travailleurs sociaux qui sont dans certaines voitures de police. On a des policiers qu'on appelle les policiers réseau, qui est le premier, disons, type de policier du genre au Québec. Okay. À ne pas confondre avec les policiers communautaires, mais c'est vraiment des policiers qui sont impliqués dans la communauté, qui nouent des liens, qui sont attribués à certains secteurs, où les gens peuvent les appeler sur leur numéro de téléphone cellulaire. Okay. Donc, il y a vraiment un lien de proximité, de confiance qui se crée avec la communauté à ce moment-là. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, c'est justement ce qui permet de prévenir certaines situations, de diminuer le nombre d'appels au 911 aussi, parce qu'on sait que la plupart des appels, c'est de nature sociale. Donc, en ayant ces policiers-là qui sont répondants, puis qui sont en lien avec les groupes communautaires, qui peuvent permettre de filtrer un peu, mais ça fait diminuer le nombre d'appels au 911. Ça fait en sorte que les patrouilleurs peuvent davantage se concentrer sur leur travail, qui est de justement veiller à ce qui est vraiment criminel, faire des opérations spéciales. Donc, je pense que ça y contribue. Mais au-delà de ça...
Là,
Au-delà de ça, on va... Ben oui, il y a un budget important. Ben oui. On a quand même des subventions également. On essaie des choses. Hein. On est innovateur, justement, dans l'agglomération de Longueuil. Mm-hmm. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, encore une fois, on touche du bas, ça va bien. Mais on reste vigilant. Puis d'ailleurs, on est en train de faire quand même... On a confié à la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Longueuil un mandat pour, disons, examiner cette situation-là de la prolifération des armes à feu sur le territoire.
D'accord. Donc, ouais. Très proactif.
Exact. On essaie d'agir en amont avant que le phénomène se rende de notre côté du fleuve.
Puis, lorsque vous êtes rentré en fonction, peu de temps après, vous deviez regarder le budget, un budget qui avoisine là, les 400-500 millions de dollars à Longueuil. Pour chaque dollar... taxé aux contribuables. Ça, c'est intéressant quand j'ai regardé là, ouais. Un peu la fourchette. Ouais. Il y a 18 sous, je pense, pour les loisirs. Hein? Mais il y a 16 sous par dollar, vous me corrigez, Catherine, qui va pour la sécurité publique, donc assurément au service de police. Ouais. Ça, je trouve que c'est intéressant. Là. Vous ne lésinez pas en ce qui a trait aux moyens pour assurer la sécurité du territoire longueuillois?
Ah, c'est sûr. La sécurité publique, c'est vraiment dans nos plus grands postes budgétaires. Puis c'est aussi des postes dans lesquels, honnêtement, on se verrait pas couper. Des fois, on a des discussions parce que Longueuil est la ville-centre de l'agglomération Longueuil. Hein, j'utilise ce mot-là parce qu'on est tous avec Brossard, Boucherville, Saint-Bruno et Saint-Lambert. Donc, on est 5 villes qui partageons les services incendie, services de police. Puis... historiquement, ça a fait un petit peu de controverse parce que c'est sûr que c'est des coûts importants. Puis pour les villes, tu sais, des fois, tu te demandes quel est ton retour sur investissement. Mais là, maintenant, ça va bien. Là, au sein de l'agglomération, on a justement amené cette fameuse politique de collaboration qui est tant chère à mes yeux. Donc, ça se passe bien, mais nécessairement, déjà, tu sais, il y a toujours des questionnements. OK, est-ce qu'on pourrait pas avoir des meilleurs coûts pour le service incendie, pour le service de police? Mais déjà, je veux dire, on a quand même une gestion très, très rigoureuse. Mm-hmm. Puis c'est des choses dans lesquelles on peut pas vraiment couper. Ouais. Où est-ce qu'on... C'est difficile, en tout cas. Mais on essaye, évidemment, d'être à la fine pointe de la technologie, puis de, justement, avoir... Puisqu'on est innovant, on a aussi la chance d'être appuyé par les autres gouvernements qui croient dans nos projets. Oh, c'est sûr que ça donne un bon coup de pouce.
Écoute, on est à Longueuil, la Montérégie. On est avec la première magistrate de la place, comme on dit par chez nous.
Oui!
quelques attraits touristiques. On sait qu'il y a le festival de la poutine par chez vous, là, quand même.
Mais oui, à Place Longueuil, là, ça commence jeudi.
Ouais, ça commence jeudi. On va revenir, M. Dorian. Vous pensez quoi? Notre caméraman. Quelques attraits touristiques. On sait qu'il y a une marina, Longue-Rive, là. T'sais,
oui.
Il y a plein de trucs là, à faire.
Exactement.
À
mais
on
oui,
vous
le parc Marie-Victorin. Ouais, puis d'ailleurs, ouais, on a le port de plaisance Réal-Bouvier. On peut prendre une navette fluviale pour aller à l'île Sainte-Hélène et par la suite qui nous amène directement dans le vieux port. C'est 5,50. C'est vraiment une belle petite activité estivale. Ouais, sinon, il y a le vieux Gunsville Park. C'est super beau à découvrir. Il y a des petits cafés, des, des petites boutiques intéressantes. Sinon, dans l'arrondissement de Saint-Hubert, on a le parc Glacé qui est un immense parc urbain. Il y a des jeux d'eau, il y a plein de choses pour les enfants. C'est vraiment intéressant d'aller y faire un tour. Puis sinon, si on regarde plus dans l'agglomération, c'est certain qu'il y a la belle plage et la marina à Boucherville qui est intéressante également sur le bord de l'eau. À Saint-Bruno, on ne peut pas passer à côté du parc national. Parc national du Mont-Saint-Bruno, évidemment. Un beau lac où on peut aller en profiter. On peut monter, évidemment, la montagne.
L'Université McGill, là, c'est-tu à Mont-Saint-Bruno?
Ça, c'est à Mont-Saint-Clair. Un peu plus loin à Montérégie, mais c'est intéressant quand même. Saint-Bruno, c'est la petite sœur jumelle. Ben, plus petite quand même que Mont-Saint-Hilaire, mais c'est nos belles collines montérégiennes. Okay. Puis ben, à Saint-Lambert, un peu comme dans le Vieux-Longueuil, hein, il y a la très, très belle rue, la rue Victoria. À Longueuil, c'est la rue Saint-Charles.
Vous avez de bonnes tablées.
D'autres beaux petits cœurs villageois et des bons restaurants.
Ouais, c'est ça.
Qui sont bien agréables avec des espaces pour des spectacles. Donc non, c'est vraiment des beaux quartiers à visiter.
Bon. Écoutez, madame la mairesse...
Ah, puis Brossard, évidemment, il dit 30, je ne peux pas passer à côté. Ça, c'est... Tout le monde connaît ça.
Notre shopping, là,
aller faire des bons restaurants aussi au 10-30, les salles de spectacle, donc c'est le fun.
Super. Le Québec a appris à vous connaître. Le Québec vous a épousé. Vous faites partie d'une des figures politiques les plus appréciées. Là. On vous la pose à vous. On vous l'avait demandé en temps. À la première entrevue, vous étiez député. Vous me voyez sûrement venir, dans 20 ans, un ticket Fournier-Boyer pour l'Assemblée nationale du Québec. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir? Premier ministre Fournier, vice-premier ministre Boyer ou vice-versa? On vous écoute. Il y a une petite oreille qui me dit que ça ne peut que ne pas arriver. Je vous écoute.
Mais moi, j'ai fait quand même plusieurs années à l'Assemblée nationale, puis j'ai trouvé que c'était vraiment un beau privilège. Mm-hmm. Puis maintenant, honnêtement, je me plais énormément dans la politique municipale, qui est vraiment une politique d'action et tout ça. Ceci dit, moi, je veux dire, j'ai jamais fermé de porte à rien dans ma vie. Donc, est-ce que ça se peut qu'un jour, je retourne en politique québécoise? Je ne sais pas. Pour l'instant, honnêtement, j'adore ce que je fais. Puis c'est pas une perspective que j'envisage. Mais j'aime beaucoup, d'ailleurs, travailler avec mon collègue Stéphane. On organise un sommet sur l'habitation.
Le 26 août!
Exactement. On veut vraiment, justement, sortir des sentiers battus, sortir des événements un peu plus conventionnels. Mm-hmm. Puis vraiment avoir un sommet de réflexion, oui, mais qui est tourné vers l'action, mobiliser les autres grandes villes du Québec autour de certains enjeux, les autres gouvernements, ça tombe bien, campagne électorale québécoise qui arrive également. Je pense qu'on est capable de faire bouger les choses au municipal, puis ça, c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer un peu partout à l'échelle du Québec.
Oui, ah wow! Écoutez, Monsieur Jonathan Lapierre aux Îles-de-la-Madeleine, Monsieur Dufour à Repentigny, Madame Fournier à Longueuil, Monsieur Boyer, puis j'en oublie certains. Écoutez, il y a un foisonnement au niveau politique au Québec. On te dit merci d'y contribuer. Écoute, les 15 dernières secondes sont à toi. Tu t'adresses à tes commettantes et commettants, encore une fois, mais peut-être d'une manière plus intimiste, là, à la Coconut Podcast. Tu les remercies parce que vraiment, les 100 premiers jours de ton mandat sont passés. Puis
c'est vrai, même, en fait, c'est la première année qui, pas encore tout à fait, là, mais un bon 8 mois d'accompli. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est de vous remercier évidemment pour votre confiance. C'est grâce à vous que mon équipe et moi sommes au travail aujourd'hui pour vous. On espère que vous êtes en mesure déjà de voir le changement, le vent positif qui est insufflé sur Longueuil. Nous, en tout cas, on travaille extrêmement fort au quotidien. On est animé d'une vision, d'un dynamisme et d'une volonté de changer les choses, justement, de façon positive pour assurer l'avenir des prochaines générations, puis que tout le monde se sente également fier d'être longueuilloise et longueuillois. Donc, c'est un plaisir d'être présente aujourd'hui, puis au plaisir de vous rencontrer en personne dans les prochains mois, prochaines années.
Écoute,
fait toujours plaisir de vous rencontrer les gens. N'hésitez pas, si vous me voyez dans un événement public ou quoi que ce soit, venez me saluer, ça me fait énormément plaisir.
Puis, ce qui est incroyable, Coconut Podcast, on va terminer là-dessus, c'est que, sur une note plus privée, d'après nos informations, tu as eu un deuil dans ta famille. Nous te présentons nos condoléances.
Merci.
Toute l'équipe. Et c'est de voir la dose d'affection et d'amour que tu as reçue de la part des Québécoises avec un grand Q québécois. Qu'est-ce que ça t'a fait? On aimerait là, que tu partages.
Ben, c'est certain que ça fait chaud au cœur, d'autant que justement, c'est ma grand-mère paternelle dont j'étais très proche et qui était elle-même très impliquée en politique, qui a eu beaucoup d'influence sur mon parcours.
Qui t'a suivi, hein?
Exact, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissaient justement dans le monde politique, donc ça a fait en sorte qu'il y a eu une belle vague de témoignages. Puis c'est sûr, ça m'a beaucoup touchée. Non, les gens étaient extrêmement gentils. Hein. Vraiment.
Vous êtes appréciée, Fournier.
Tant mieux, parce que moi, j'apprécie les gens. Ouais, donc, tant mieux si c'est réciproque.
C'est réciproque. Mais écoutez, toute une entrevue, moi, là, j'en reste comme... C'est rare, je suis comme crispé à ce niveau-là, parce que vous êtes ce que le citoyen, citoyenne, cherche comme représentant dans les grands hémicycles. Je pense peut-être qu'on va vous déménager, nous autres, à Longueuil.
Vous êtes les bienvenus, tout le monde. Bienvenue à Longueuil.
Alors, mairesse Fournier, j'allais dire mairesse Boyer. Mairesse Fournier, je te remercie grandement de nous avoir reçus. Écoute, dans la salle du conseil, franchement, là, on est estomaqués. Merci à ton équipe, Madame Camille également, nous a bien reçus. Big up.
J'ai une équipe extraordinaire avec moi, vraiment, autant pour les élus que pour les membres de mon cabinet. Là, je suis très choyée. Merci à toi, Alain.
Le Québec est choyé de t'avoir.
Ah, ben là, écoute, ça c'était bon pour mon ego, cette entrevue-là. Là, t'es vraiment gentil.
Oh, ben,
merci.
Je pense que notre podcast, c'est ce qu'on fait, tu sais. Renverser cette image, des fois peut-être négative, que les gens peuvent avoir de nos élus.
Mais c'est vrai, on connaît les côtés plus humains. Moi, j'ai eu la chance, au travers de mon parcours, de connaître justement les côtés personnels de tellement d'élus politiques. Puis je pense qu'on gagnerait, qu'on gagnerait à se connaître mieux.
Pas juste mairesse, là, il y avait une de tes amies qui se mariait, puis tu nous as partagé ça sur les réseaux sociaux, puis on voit notre mairesse super contente dans la vraie vie.
Bien, je trouve ça important qu'on voit qu'il y a une vraie personne derrière la figure politique.
Bien, on te dit vraiment... C'est incroyable comme entrevue. Coconut Podcast, on s'est promené à travers le Québec. On a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Puis là, on rencontre un grand chef Sky Deer dans la région de Montérégie.
Wow, génial. Okay.
Donc, écoute, nous autres, nos frères et sœurs des Premières Nations dans la grande région métropolitaine de Montréal, ils nous disent « Niawen ». Merci.
Niawen, merci.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Alors, messieurs, dames, nous étions, mais avec, alors là, cette politicienne qui représente le renouveau dans l'arène politique, elle rend la chose accessible pour tous et chacun. Vraiment, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Instagram, IG, comme les jeunes y disent. Là. Moi, je suis rendu un plus vieux. Mais alors là, messieurs, dames, ou Facebook, comme diraient mes amis de Paname. Alors, messieurs, dames, on est dans la Montérégie avec la mairesse de Longueuil, Monsieur Boyer, vous l'avez dit qu'on allait l'interviewer également. Alors, sur ce, on vous invite à nous suivre sur le reste de notre visite de la Montérégie. Alors, sur ce, comme je l'ai dit à l'accoutumée, merci, au revoir. Niawen, on se voit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast.